On y va à l'instant.
Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, est au bout du fil. On revient en 1972. Nous autres, on fait ça par téléphone. Salut, Nick!
Salut, ça va bien?
Ça va très, très bien. Là, est-ce que tu es prêt à te faire séquestrer? Parce qu'au moment où on enregistre cette entrevue-là, ben, il est autour de quoi? 8h55. Tu rentres à quelle heure te faire séquestrer, là?
Ouais, je rentre au Palais des Congrès, au huis clos budgétaire à 10h AM.
Ouais.
Quoique les représentants des médias, eux autres, ils ont déjà commencé à rentrer à l'instant. Ils rentrent à 9h. Fait que on est séquestré une heure de moins que les gens de la tribune médiatique. Mais il n'en reste qu'on va être pogné là, effectivement, jusqu'à 4h PM. Donc, c'est quand même un exercice assez particulier. C'est aussi une tradition annuelle à chaque année, autant nous à la Fédération que plein de groupes socio-économiques, on se prend au budget. On va l'analyser, on va passer la journée à passer au travers. C'est une méchante brique, puis on a en plus des documents qui viennent du Conseil du Trésor. Donc, on a pas mal à passer au travers. Puis au final, on va essayer de décortiquer ce que le gouvernement fait avec votre argent, s'il vous ordonne, s'il vous ordonne pas, s'il taxe plus ou moins. Donc, c'est le genre de choses qu'on va observer. Et à 4h PM, dès que le ministre des Finances va commencer à faire son discours en fait du budget, ben on va pouvoir sortir, donc on sera plus séquestré à ce moment-là, on pourra retourner à nos téléphones et vous expliquer un peu ce qui se passe avec les finances publiques.
OK, donc on va pouvoir voir ce que toi t'as remarqué du budget sur ton Twitter, j'imagine?
Oui, fort possiblement, ça sera peut-être pas automatique parce que, disons, à 4h PM, nous, on court à droite et à gauche pour relancer nos communiqués de presse et interpeller le maximum de personnes que possible par rapport à notre plus importante découverte ou simplement aux éléments les plus pertinents du budget comme tel. Mais oui, au courant de la journée, je dirais surtout le lendemain, j'ai relâché le communiqué de presse, on va sûrement sortir un texte d'opinion et probablement aussi un rapport, de sens que pour revenir sur les éléments qu'on perçoit comme positifs ou négatifs dans le budget. Malheureusement, je suis obligé de dire à l'avance, puis ça, je suis un petit peu rabat-joie, mais j'ai vraiment pas d'attente très, très élevée par rapport au budget. On sait que ça va être déficitaire, ça va être à l'encre rouge. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ou de taxes. Mais pour le reste, il n'y a rien de promis pour l'instant. Donc, je vais pouvoir vous donner un topo plus complet au courant des prochains jours sans fond.
OK. Est-ce que vous devez lire la brique au complet ou vous avez un genre de résumé pour chacun des points qui est annoncé?
En fait, la manière que le budget est présenté, en fait, c'est qu'il y a toujours les points sommaires, ne serait-ce que les points les plus importants,
ouais, okay,
qui sont exposés par le ministre dès le début d'entrée de jeu quand il présente le budget. Par contre, de notre côté, je dirais qu'avec expérience, on a appris vraiment à aller à travers les différents points qui nous intéressent à la Fédération. C'est sûr que nous, comme je vous dis, la plus importante chose, c'est qu'on regarde s'il y a des baisses d'impôts, des baisses de taxes.
Ouais.
On n'aura pas cette année, on le sait. Mais généralement, ça va être ça. On va regarder aussi les déficits. On va regarder le service sur la dette, à savoir si on va payer plus d'intérêts sur la dette québécoise cette année versus l'année précédente ou l'année prochaine. On va regarder aussi la croissance des effectifs gouvernementaux. Combien de personnes ont été embauchées par le gouvernement du Québec dans la dernière année et combien est-ce qu'ils projettent en engager pour le prochain exercice financier. Ça a l'air de rien comme tel, mais dans le dernier exercice financier, le gouvernement québécois, en 2023-2024, il avait prévu ajouter 6000 effectifs supplémentaires. Ben là, cette année, juste en éducation, dans les concessions qui ont été faites au syndicat de la fonction publique, bon, on compte ajouter pas loin de 5000 juste en éducation. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une croissance de la bureaucratie comme telle. Ça, c'est souvent dans les documents qui sont publiés par le Conseil du Trésor pour d'expliquer un peu où sont rendus les effectifs de l'ensemble de la bureaucratie québécoise. Donc, c'est pas mal les points principaux qu'on va regarder. C'est sûr que dans tous les cas, on s'attend à ce que pas mal tout augmente. Il n'y a pas vraiment de démonstration de la part du gouvernement Legault à ce stade-ci qui nous démontre que on va voir moins de dépenses ou on va voir un peu plus de rigueur dans la gestion des finances publiques. Mais bon, on peut quand même espérer. On va en avoir le kernel plus tard aujourd'hui. Mais il n'en reste qu'au final, c'est pas mal les éléments qu'on regarde le plus. C'est sûr que si jamais il y a d'autres, des allègements ou qu'il y a des programmes supplémentaires qui sont offerts pour les familles, on va regarder ça, c'est sûr. Mais au final, nous, on regarde où est-ce que les contribuables sont surtout gagnants.
Et quand tu compares budget à budget, est-ce que tu as l'impression que le gouvernement rentre à 100% dans ce qu'on avait planifié? Est-ce que ce qui rentre à 80, à 70?
Là, cette année, on va le savoir. S'il était au moins à 50% ou à 0%, Parce que dans le dernier exercice financier, ben, en 2023-2024, il y avait vraiment une feuille de route pour le gouvernement pour retourner à l'équilibre des finances publiques. Donc, on voulait se débarrasser des déficits et le plan, c'était on va s'assurer de contrôler les dépenses de manière à ce que à chaque année, on réduise de 1 milliard le déficit puis on retourne à l'équilibre budgétaire en 2027. Ça, par exemple, on sait que ça n'aura pas lieu. Tout le monde sait que ça va être un déficit plus important que prévu. Donc, juste là-dessus, quand même un objectif très important, ne serait-ce que de s'assurer de rééquilibrer les finances. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on accumule des déficits, on augmente la dette. Et la dette, elle nous coûte cher à chaque année. Juste cette année, c'est 10 milliards de dollars que ça va nous coûter en intérêt. Et ça va augmenter avec le temps. C'est de la marge de manœuvre qu'on n'a pas pour la santé, l'éducation ou pour littéralement remettre l'argent dans les poches des contribuables. Donc, c'est sûr que là-dessus, de dire que le gouvernement va avoir échoué sur cet objectif-là simplement, c'est pas bon signe. On sait le pourquoi. On pourrait énumérer toutes les dépenses folles qui ont eu lieu dans la dernière année, ce qui est assez particulier parce que en 2023, quand ils ont présenté le dernier budget, ils savaient qu'on rentrait dans une période économique qui allait être beaucoup plus, turbulente et qu'il fallait donc s'assurer de faire attention aux dépenses, quitte à donner un peu plus d'argent aux contribuables avec une baisse d'impôts, comme on s'en souvient, pour s'assurer que les gens puissent passer au travers. Mais au courant de l'année 2023, ils ont plutôt dépensé et dépensé sans arrêt. On a Northvolt, le Stade olympique, General Motors, Ford, 30% d'augmentation de salaire pour les députés, et on en passe. Mais donc ça, c'est pas mal l'indice le plus important pour nous. Clairement, il n'y a aucune tentative de réduire les dépenses ou de les contrôler davantage. Et au final, ben les contribuables seront lésés cette année, ou du moins, ils n'auront pas le droit à un allègement parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour ça. Et ben les générations futures sont encore plus lésées parce qu'ils vont avoir une dette sur les épaules encore plus lourde. Donc, c'est ça qui arrive quand le gouvernement manque à ses objectifs. Pour nous, c'est un des plus importants. Mais il n'en reste qu'on talonne aussi le gouvernement pour qu'il puisse offrir des allègements fiscaux aux contribuables, comme c'est le cas dans d'autres provinces. On rappelle souvent qu'en Ontario, Terre-Neuve-Labrador, Manitoba, dans ces provinces-là, les différents gouvernements ont réduit la taxe sur l'essence et ça a un impact non négligeable sur le portefeuille des familles. C'est une chose pour laquelle on pousse beaucoup, nous, au Québec. Malheureusement, on s'attend pas de la part du gouvernement à ce que ce soit livré aujourd'hui. Je suis un peu pessimiste, mais quoi que j'aimerais ça vous dire, vous donner des bonnes nouvelles en fin de journée. Mais c'est le genre de choses que, on sait que ça n'aura pas lieu. Donc, il n'y a pas d'allègement pour les contribuables, contrairement aux provinces voisines. Et en plus de ça, ben pas de retour à l'équilibre budgétaire pour les contribuables actuels et les générations futures. Donc, si tout ce que je viens de dire s'avère vrai, pour moi, c'est un gros 0% pour le bulletin du gouvernement, ne serait-ce que pour l'exercice financier actuel. Mais je vais leur donner quand même le bénéfice du doute puis essayer de confirmer les chiffres en bonne et due forme au courant de la journée.
Ouais, est-ce que les sources de revenus du gouvernement, je sais pas moi, les vaches à lait là, au Québec qu'on a, on a Hydro-Québec, on a la SAQ, on a la SQDC, est-ce que les sources de revenus sont incluses là-dedans? Parce que il y a tout ça à peu près un mois de mémoire, le Hydro-Québec avait mentionné donner 1 milliard de moins qu'en 2022. On avait donné autour de 2,5 milliards, donc 1 milliard de moins, c'est majeur, 1 milliard. Il faut combler ce manque à gagner là. C'est inclus aussi dans le budget, dans les prévisions du moins?
Oui, comme tel, c'était déjà calculé comme quoi qu'il y avait un ralentissement économique. Déjà qu'il y avait un ralentissement économique, donc ça joue sur les revenus du gouvernement. Mais en plus, on a un ralentissement au niveau des revenus des sociétés d'État. Comme tu l'as mentionné, à Hydro-Québec, on a vraiment une perte de productivité, mais ça fait quand même plusieurs années que c'est observé. Mais il n'en reste que chez Hydro-Québec, on sait qu'on va avoir beaucoup moins de revenus. 1 milliard, c'est quand même significatif pour les coffres du gouvernement. Et c'est pas la seule société d'État qui est dans cette situation-là. Quand on regarde, par exemple, les revenus de la SQDC ou de la SAQ, ça stagne. C'est pas vraiment en croissance phénoménale. On s'entend que les leviers principaux du gouvernement dans cette situation-là, c'est les revenus. Et donc, à défaut de maximiser ses revenus à partir des sociétés d'État, ben il doit les maximiser ailleurs. Et là, ben il reste les impôts et les taxes. Ça, ben c'est une chose sur laquelle, nous, en tant que bon chien de garde, on va être assez féroce pour s'assurer que ça n'aille pas lieu. Mais d'un autre côté, le gouvernement, François Legault lui-même, ben je veux dire, son blason, son étiquette, c'est remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Donc, si jamais il se retrouve dans cette situation où est-ce que ben on manque de revenus pour de la part des sociétés d'État comme telles et on refuse de couper dans les dépenses, ben il va devoir augmenter les revenus ailleurs. Et c'est là qu'on espère qu'il n'ira pas, c'est-à-dire dans nos poches directement. Donc, c'est pas mal ça le problème. C'est quand le gouvernement base à peu près toutes ses projections sur des vaches à lait, où ils mettent, comme on aime souvent dire, ils mettent tous ses œufs dans le même panier, ben malheureusement, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on va manquer d'options ou d'alternatives si jamais les revenus diminuent. C'est sûr que normalement, quand les revenus diminuent, on s'attend à ce que les dépenses diminuent, mais c'est malheureusement pas la logique actuelle à Québec ou à Ottawa. Puis ça me permet de faire un parallèle assez particulier en ce qui se passe, je veux dire, avec M. Legault et M. Trudeau à Ottawa, c'est-à-dire que dans les deux cas, on avait un retour à l'équilibre budgétaire qui n'aura pas lieu, qui était promis initialement, ça n'aura pas lieu. Et de deux, bon, on continue à dépenser puis à alourdir la bureaucratie sans aucune forme de retenue, sans même aucun plan pour ne serait-ce qu'assainir les finances puis rendre le tout plus efficace et efficient pour tout le monde. Donc, c'est le genre de choses qu'on espère qu'il y aura peut-être un changement de cap de la part du gouvernement dans les annonces qui vont être faites aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus se faire trop d'espoir pour rester réaliste là-dessus.
Dans les dernières annonces, on s'est aperçu qu'il y avait de l'argent qui était prêté ou donné à des entreprises. Là. Bon, c'était sous subvention. Des fois, c'était pardonnable aussi, des prêts. Est-ce qu'à un moment donné, on va mettre en place un comité de révision des dépenses pour être sûr, certain qu'on mette l'argent aux bons endroits plutôt que de donner de l'argent constamment à des gens qui la feront pas fructifier, cet argent-là. On va peut-être l'utiliser à mauvais escient. Faudrait surveiller ces gens-là à qui on prête de l'argent ou encore à qui on donne de l'argent. Puis j'ai pas l'impression qu'un genre de comité de révision des dépenses au gouvernement du Québec, là, mais un comité qui serait pas qui serait complètement indépendant du gouvernement en place.
Ben ça, c'est un très bon point. En fait, nous, à la Fédération, on pousse depuis plusieurs années dans nos différents mémoires prébudgétaires pour la mise en place d'un comité de révision des dépenses, justement en s'inspirant de ce qui a été fait par Paul Martin à l'époque au fédéral et qui a été aussi fait par Stephen Harper par la suite en 2009 à peu près. Et dans les deux cas, ça a quand même mené à des économies assez intéressantes. Dans les deux cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé en revue les dépenses de chacun des ministères et ils sont assurés de réduire d'au moins 10% l'ensemble des dépenses. Donc, il y avait vraiment comme une volonté à aller chercher le maximum d'économies possible, ne serait-ce que pour vraiment mettre de l'ordre dans les finances. Mais au-delà de ça, oui, on aimerait ça aussi avoir un directeur parlementaire du budget. C'est quelque chose qui existe à Ottawa, mais qu'on aimerait aussi voir à Québec. Puis c'est aussi une demande qui est répétée par pas mal toutes les parties politiques, incluant la CAQ, du moins jusqu'en 2019, parce qu'ils l'ont toujours pas mis en place et ils n'ont pas répété leur engagement en ce sens, mais d'avoir un chien de garde supplémentaire à Québec dans ce cas-ci pour s'assurer à ce que quand on donne de l'argent à Northvolt, quand on en donne à General Motors ou à Ford ou pour Pomerleau-Canam pour le Stade olympique, ou les Kings de Los Angeles, ou n'importe quelle autre dépense de ce type-là, incluant toutes les dépenses qu'on a pu voir avec Investissement Québec qui finissent dans des entreprises dont les prêts sont pardonnables, ce genre de choses-là devrait être passé au ping fin constamment. Oui. Nous, à la Fédération, on aime ça, se prêter aux jeux, on fait beaucoup de demandes d'accès à l'information, puis on passe à travers les différents rapports, mais il en reste qu'on est quand même limité pour contrôler les dépenses d'un BMA comme le gouvernement du Québec. Donc, d'avoir des instances supplémentaires, puis surtout qu'il y ait, comme tu l'as mentionné au départ, un comité de révision des dépenses, mais ça, c'est un engagement clair de la part du gouvernement pour mettre cet exercice-là en place, ça serait déjà intéressant. Le seul problème là-dessus, puis ça, ben encore une fois, je veux pas être trop pessimiste, mais le gouvernement du Québec, de François Legault, s'est déjà engagé auparavant à mettre en place ce genre de comité-là, mais on l'a toujours pas vu, disons, apparaître nulle part à l'Assemblée nationale pour l'instant. Donc, qui vont renouveler leur engagement en ce sens aujourd'hui, on l'espère, mais on va toucher du bois également.
Le Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, tu t'en vas te faire séquestrer. Est-ce que ça se passe à l'Assemblée nationale?
Non, juste à côté, au Palais des congrès à Québec. Donc, on peut voir l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on va être, ben peut-être pas où est-ce qu'on va être assis, là, mais c'est essentiellement quasiment à 2-3 rues de nous. Donc, on va possiblement pouvoir se rendre à la proche de l'Assemblée nationale par la suite, mais de notre côté, on va rester aux alentours dans le centre-ville de la capitale.
Nick, est-ce qu'ils t'ont donné un safe word? C'est-à-dire, quand t'es plus capable de te faire séquestrer, faut que tu dises un mot qui est entendu au départ pour que celui qui te séquestre puisse te libérer. Est-ce que t'as choisi ton safe word ou est-ce qu'ils t'en ont donné un?
Oui, c'est mes taxes. C'est mon safe word, mais non, plus sérieusement, malheureusement, on n'a pas de safe word. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le huis clos budgétaire, c'est ça la magie de la chose. Ouais. À moins d'un cas de force majeure exceptionnelle, puis je pense même pas que ce soit accepté, vous pouvez pas quitter le huis clos. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, c'est quasiment séquestré, sauf que là, ça compte pas parce que c'est la police, c'est la Sûreté du Québec qui nous garde là. Fait que c'est plus des prisonniers séquestrés comme tels. Mais oui, il n'y a pas vraiment d'option pour sortir. J'aurais pas accès à mon téléphone ni à Internet. Bon, c'est pas la fin du monde, là. Je suis pas un millénial non plus, mais il en reste que Ça va être quand même une drôle d'épreuve, mais ça va aussi être très enrichissant, puis ça va nous permettre de sortir de là avec des informations pertinentes.
Donc, le safe word, c'est Betax.
Betax, oui. Ça, c'est toujours mon safe word. Si jamais il arrive quoi que ce soit, tu cries Betax, tu cours.
Je te souhaite de passer, ça va faire drôle à dire, mais je te souhaite de passer une très belle journée à la présentation de ce budget-là, tout en étant séquestré. Puis, bienvenue à Québec, mon ami. C'est le fun de te voir que tu es chez nous, là.
Ben, c'est toujours un plaisir. Puis écoute, c'est pas la première fois que je viens. C'est certainement pas la dernière fois, du moins, surtout cette saison. On va sûrement revenir avec le monde de l'Institut économique de Montréal, puis de la FCI et d'autres personnes que je connais bien, là, qui vont être également au budget aujourd'hui. Donc, c'est toujours un honneur d'être dans la capitale. C'est vraiment une belle ville. Malheureusement, je sais pas si je vais avoir droit à des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais ça va nous faire plaisir de vous les partager au courant des prochains jours. Puis c'est toujours un plaisir de servir les contribuables et les gens de Québec.
Ouais, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me demandent souvent à chacun de tes passages qui est Nicolas Gagnon. Ben, c'est le gars de la Fédération canadienne des contribuables. Puis pour savoir ce qu'ils font, c'est contribuable.ca.
Exactement, contribuable avec un S.ca.
Salut mon ami, bonne journée.